21h passées de quelques secondes sur Radion. Bonsoir à toutes et à tous. Yannick Petit pour votre émission littéraire hebdomadaire Wagon Livre. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h. Une heure que nous allons passer en compagnie de la romancière franco-anglaise Tatiana Deronet, que nous avons rencontrée la semaine dernière à Dijon, alors qu'elle était l'invitée du Club des écrivains de Bourgogne. Une actualité littéraire pour Tatiana Deronet, qui vient de faire paraître, début de ce mois de mars, un nouveau roman intitulé « Sentinelle de la pluie ». Il est disponible aux éditions Héloïse d'Ormesson. Tatiana Deronet est née en 1961, je vous l'ai dit, elle est franco-anglaise, elle est l'auteure de 12 romans dont L'appartement témoin, Le voisin, Boomerang, Rose, à l'encre russe, et mentionnons surtout ce best-seller international qui a pour titre Elle s'appelait Sarah, qui enregistre dans le monde à ce jour 11 millions d'exemplaires. Un certain nombre des livres de notre invité ont été adaptés au cinéma avec des castings prestigieux. Mentionnons aussi en 2015 la biographie remarquée qu'elle a publiée, intitulée Manderley Forever et qui est consacrée à Daphné du Maurier. Tatiana Deronet a été désignée comme l'une des 50 personnalités françaises les plus influentes à l'international par le magazine Vanity Fair. Elle habite à Paris et en ce moment donc elle fait la promotion de Sentinelle de la pluie, son tout nouveau roman dont il va être question ce soir dans Wagon Livre. Mais on marque d'abord un premier intermède musical et puis juste après, bien sûr, nous vous offrons l'entretien que nous avons enregistré la semaine dernière avec Tatiana Deronet. Bonne soirée sur Radion, c'est Wagon Livre et nous sommes ensemble jusqu'à 22h.
Get to hear me now. I know you get stronger when you get older. Just don't show your shoulders when you get older. Things aren't easy, so just believe me now. If you don't keep it cool now, you never make a sound. All the lights will guide the way. If you get to hear me now, all the fears will fade away. You get to hear me now. If you get to hear me now. If you get to hear me now. The excuses aside, speak out your mind now. And don't let it slide, you're not always right now. Get to hear me now. If you get to hear me now. If you get to hear me now. If you get to hear me now. Now.
Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
Tatiana Dronet, bonsoir.
Bonsoir.
Tout nouveau roman paru aux éditions Héloïse d'Ormesson, roman qui a pour titre « Sentinelle de la pluie », une histoire qui est très contemporaine, puisque l'action se situe en 2018, l'année où le père du personnage principal fête ses 70 ans dans un Paris un peu apocalyptique. Toute la famille Malgarde s'est retrouvée à Paris pour les 70 ans de Paul. Alors, le roman est traduit en français, vous l'avez écrit en anglais. Comment se fait-il que vous n'écriviez pas en français ? Ça, c'était une question qui me paraissait importante.
Ça passionne les journalistes et les lecteurs. Je pense que je vais publier un petit paragraphe sur mon site internet parce que j'ai l'impression que ça suscite une curiosité immense. Donc, pour faire court, parce que c'est long, moi, j'ai deux langues maternelles puisque j'ai un père français et une mère anglaise. J'ai appris les deux en même temps. Je n'ai pas d'accent quand je parle français. And I don't have an accent when I speak English. Parce que les gens pourraient s'attendre à ce que je parle avec un accent. Et ma langue d'écriture, en tout cas, elle a débuté en anglais, puisque lorsque j'ai commencé à écrire des romans, petite fille, à l'âge de 10 ans, j'ai commencé à écrire en anglais. J'ai publié pour la première fois en français, L'appartement témoin, même si j'avais écrit beaucoup de livres en anglais qui n'avaient jamais été montrés à un éditeur. Et puis j'ai continué à écrire en français jusqu'à ce que j'écrive Elle s'appelait Sarah en anglais. Je ne me traduis pas moi-même car je n'ai pas la distance pour me traduire moi-même. Je ne suis pas traductrice, c'est un vrai métier. Et d'ailleurs, je salue le travail d'Anouk Nohoff qui a fait un remarquable travail. Et ce n'est pas facile de traduire un auteur bilingue qui est très exigeant. Donc tout ça pour vous dire que je pense que l'écriture me vient plus naturellement en anglais, même si j'ai écrit quelques livres en français, comme par exemple Le Voisin ou Spirale ou Manderley Forever ont été écrits en français, mais le prochain sera certainement en anglais.
Bon, on a mis de côté cet aspect écriture en anglais et donc ce roman nouveau Sentinelle de la pluie qui est donc traduit en français aux éditions Héloïse d'Ormesson. Alors c'est aussi toute l'histoire d'une famille, cette famille Malgarde. Bon, le personnage principal c'est le jeune homme de 37 ans, Linden, qui est homosexuel, qui a un compagnon qui est aux États-Unis au moment où lui est venu à Paris retrouver ses parents qui habitent normalement dans un assez beau domaine à Vénozan, dans la Drôme. Il y a la sœur de Linden qui est là également pour les 70 ans du papa. Et puis il y a également la nièce, Mistral, qui est là pour entourer le grand-père. Et vous nous présentez un Paris absolument sous un déluge de pluie, avec la menace, enfin elle est réelle d'ailleurs, la menace de la montée des eaux de la Seine, et la Seine a déjà connu cela. Alors pourquoi avoir choisi ce contexte d'une Seine en furie? Pourquoi ce Paris sous la pluie? C'était pas forcément indispensable, si ce n'est peut-être que c'est métaphorique.
Alors moi d'abord, je voudrais préciser que je n'écris pas des romans feel good. Je ne suis pas quelqu'un qui va vous raconter une petite histoire d'amour tranquille. Je ne sais pas si vous avez lu d'autres livres de moi, mais Elle s'appelait Sarah, mettait en scène l'horreur de la rafle du Veldiv. Mocha met en scène un garçon renversé par une voiture après un cours de dessin qui va rester dans le coma. Donc Rose raconte le combat d'une femme qui va se battre contre le baron Haussmann qui va raser sa maison pour construire le boulevard Saint-Germain. Donc je ne suis pas quelqu'un qui va chercher une petite histoire simple et jolie. Moi, je préfère aller dans une certaine dramaturgie, dans quelque chose qui va frapper mes lecteurs. Et en tant que Parisienne, j'ai toujours vécu près de la Seine. Elle m'a longtemps fascinée. Elle a l'air très tranquille comme ça. On pense qu'elle a été apprivoisée par les scientifiques, par les fluviologues capables d'étudier son débit. Donc ça fait déjà depuis que je suis petite fille que j'ai eu envie d'écrire sur la crue. Et dans mon livre, ma crue dépasse celle de 1910, puisqu'elle va au-delà. Elle fait 8,99 m exactement. Donc déjà, ça c'était le point de départ pour moi. Cette montée des eaux, d'écrire un Paris complètement ravagé, un Paris mis à genoux. Ce qui est important aussi, ce que j'ai voulu montrer, c'est qu'en 1910, Paris n'avait pas l'infrastructure qu'elle a aujourd'hui. Nous sommes maintenant régis par Internet, par l'électricité. À l'époque, il y avait des carrioles, les gens se chauffaient au bois, ils avaient des bougies. Donc, ils se débrouillaient, on va dire, un peu mieux. Aujourd'hui, notre ville serait paralysée. Et c'est d'ailleurs toute l'île de France. Il n'y a pas que Paris, puisque je parle aussi de la banlieue, qui d'ailleurs souffre encore plus que Paris parce qu'elle n'a pas les moyens. Et puis, pour terminer, j'ai toujours vécu en zone inondable, soit dans le 7e, soit dans le 15e. D'ailleurs, à la fin de mon livre, il y a un plan. Si jamais vous venez à Paris, vous pouvez voir où est-ce que vous avez intérêt à acheter un appartement ou pas, si vous voulez vous installer à Paris. Donc, j'avais envie de mettre en scène de façon très théâtrale. Et puis, j'ai été un peu, on va dire, surprise par ces deux crues que nous avions connues très récemment, alors que j'étais en train d'écrire le livre en 2016. Première crue, les eaux sont montées au-delà de 7 mètres. C'était vraiment très impressionnant de voir ça. Moi, je n'avais jamais vu ça en tant que parisienne. Et j'étais en train d'écrire le livre, ce qui m'a permis d'ailleurs de rectifier deux ou trois détails que je n'avais pas, puisque je n'avais jamais vécu ça, je n'avais jamais vu ça. Et on a eu très peur que ça monte encore plus haut. Et puis même encore récemment, là, il y a quelques semaines.
Et d'ailleurs, de la crue, c'est page 177, vous écrivez « La crue du fleuve, spectacle effrayant et splendide ». C'est un petit peu aussi le spectacle qu'offre la famille Malgard, d'une certaine manière. Effrayant et splendide, quelque chose de très baroque, finalement.
Ils ont,
un peu difforme.
Ils ont une famille, c'est une famille qui s'aime, comme beaucoup de familles d'ailleurs, et qui, comme beaucoup de familles, ont des secrets et ne savent pas se le dire, ne savent pas dire les choses, ne savent pas mettre les mots sur leurs mots, M-A-U-X. Il y a beaucoup de familles qui sont en panne de communication. Finalement, moi j'en connais une ou deux. J'ai la chance de venir d'une famille qui sait communiquer, qui sait dire les choses, mais ce n'est pas toujours le cas. Et j'ai déjà exploré ces thèmes dans Boomerang notamment, où un jeune homme, Antoine Rey, va comprendre sur le tard comment et pourquoi sa mère est morte. J'avais envie d'explorer justement qu'est-ce qui fait les secrets de famille, pourquoi il y a des choses qu'on n'arrive pas à dire, pourquoi il y a des choses qui sont tellement difficiles à dire. J'ai exploré ça aussi dans Elle s'appelait Sarah, dans Rose. Donc là, en fait, je continue de tourner autour d'un thème qui m'intéresse, et cette famille Malgard, ces quatre personnes que je connais maintenant très bien parce que je les ai tellement étudiées, donc ils me paraissent très vrais, comme s'ils existaient vraiment. Ils ont leurs défauts, ils ont leurs qualités, ils ont leurs blessures, ils ont leurs secrets.
Et donc on a toujours un couple, comme dans Elle s'appelait Sarah, on a toujours un Français, une Américaine. Là, on a un Français qui a épousé une Américaine. Et le personnage, Linden, donc ce jeune homme de 37 ans, qui est un photographe aussi de renommée internationale, lui a un problème avec son père. Il y a aussi la relation père-fils qui est très largement déroulée dans votre roman. La difficulté, elle tient aussi à l'homosexualité de ce fils qui aurait aimé présenter son compagnon à son père. Malheureusement, la situation va évoluer et tout est compliqué. Il y a la menace de la montée des eaux, mais il y a d'autres menaces. Il y a la montée des secrets, il y a comment aborder le père. Tout d'un coup, il est hospitalisé. Enfin, tout se complique.
Tout
devient tragique et dramatique.
Oui, c'est vrai. Et puis, mon héros est un jeune homme avec une grande sensibilité. D'ailleurs, il n'est pas photographe par hasard. Il a commencé à prendre des photos très tôt. Il avait un œil artistique. Et il était chaudé parce que il a révélé son homosexualité à sa mère quand il avait une vingtaine d'années. Et ça s'est mal passé. Elle a eu une réaction qui l'a beaucoup heurté. Alors que lorsqu'il en avait parlé à la propre sœur de sa mère, Candice, sa tante, qui est un personnage très important aussi dans le livre, Candice a été d'une grande tolérance, d'une grande bienveillance. Donc, du coup, Lyndon est échaudé. Et comme il est parti vivre aux États-Unis pour faire son métier, le temps a passé. Et il ne sait pas très bien comment il peut dire à son père sa vérité, sa propre vérité, comment il peut lui parler de l'homme qu'il aime, Sacha. Et les choses, comme vous le dites, sont précipitées lorsque Lyndon va se trouver au chevet de son père, dans un hôpital qui va être lui-même évacué parce qu'il est construit en bord de Seine, l'hôpital Pompidou. Et donc le temps presse, puisque la santé du père n'est pas bonne du tout. Il y a une espèce de goutte à goutte, cette scène qui monte, cette pluie qui tombe, la vie du père qui s'en va, et Lyndon comprend que finalement il va avoir très peu de temps pour parler à son père, pour lui dire les choses. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est quels mots on utilise, comment on fait pour dire des choses aussi intimes, aussi importantes, comment on puise en soi le courage de dire ça, parce que ce n'est pas facile. On a l'impression d'être vulnérable, on a l'impression d'être nu. Comment Lyndon va faire pour dire sa vérité? Et surtout, comment est-ce que Paul va réagir? Paul qui a dévoué sa vie aux arbres, comment est-ce qu'il va réagir? Donc tout le livre est articulé autour de cette espèce de conversation de la dernière chance du père et du fils, un peu comme cette chanson, je ne sais pas si vous vous souvenez, de Cat Stevens qui s'appelle Father and Son, une très belle chanson, où on voit que le père et le fils finalement n'ont pas grand-chose en commun, si ce n'est qu'ils s'aiment mais qu'ils ne savent pas se le dire, et on est un peu dans cette situation aussi.
Tatiana de René, nous nous retrouvons, si vous le voulez bien, dans quelques minutes afin de poursuivre notre échange. Et puisque vous évoquiez la chanson de Cat Stevens, Father and Son, je propose que nous la redécouvrions sur Radio. En tout cas, bonne soirée à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Wagon Livre et en compagnie de Tatiana de René. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h.
S'aimer assez fort pour nos corps en désaccord, peu importe fille ou garçon, tant qu'il est de saison. Ta frite, ton rêve américain.
Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
C'est la romancière franco-anglaise Tatiana de Ronet qui est ce soir l'invitée de votre émission littéraire pour son nouveau roman « Sentinelle de la pluie » disponible en librairie aux éditions Héloïse d'Ormesson depuis le 1er mars dernier. Il y a urgence à la fois pour les sapeurs-pompiers, pour la police qui essaie de maintenir l'ordre et la sécurité dans les rues de Paris où il y a des pillages, où il y a des... Bon, il y a même un cadavre qui est retrouvé dans un appartement. Enfin bon, Et puis il y a cette urgence aussi, comme vous l'avez dit, Tatiana Dronet, cette urgence pour Lyndon qui consiste à renouer le contact avec le père. Enfin, la relation est plutôt bonne tout de
Bien
même.
Sûr.
Elle a toujours été bonne, mais il y
Elle
a un non-dit entre ce fils homosexuel qui aurait besoin de dire à son père qu'il l'aime, mais aussi de lui parler un peu de sa vie,
de lui présenter Sacha. L'homme qu'il aime.
Alors, Paul Malgarde a donné des noms à ses enfants, vous l'avez dit, c'est un passionné d'arbres, il est même arboriste, terme qu'il n'aime pas trop, mais il a une renommée mondiale en tant que défenseur des arbres, il a tout un discours sur les arbres. Son fils Lyndon, alors Lyndon en anglais, ça veut dire tilleul,
oui.
Et la fille, donc la sœur de Lyndon, se prénomme Tilia, et Tilia c'est le nom latin du tilleul.
Oui, absolument.
Et il y a un très bel éloge des arbres, c'est page 228-229. Alors j'aimerais bien que vous nous le lisiez, ça m'embête de le lire, mais je vais vous trouver la page, vous voulez le lire, Tatiana
Dronet ? Oui,
bien sûr. C'est magnifique, c'est cette vidéo que Lyndon visionne. Et effectivement, il entend son père, donc c'est page 228, voilà tout en haut, les arbres sont des encyclopédies vivantes. Tatiana, je vous laisse lire l'intégralité jusqu'à peut-être la page suivante. Magnifique éloge des arbres.
Il nous donne toutes les clés nécessaires. Paul est ensuite filmé dans l'arboretum. Son visage est bronzé, rayonnant. Ma principale inquiétude aujourd'hui, ce sont les insecticides. Comme personne ne l'ignore, leur usage est catastrophique pour les abeilles. Ce qui se sait moins, c'est qu'il l'est aussi pour les arbres. La gestion forestière, les produits chimiques, les pesticides, les engins lourds ont ravagé les forêts. Et si on n'agit pas tout de suite, il n'y aura plus moyen de revenir en arrière. Mais plus personne ne s'intéresse aux arbres, comme si leur présence allait de soi. Les gens ne les respectent plus. Ils les traitent comme des objets qui produisent automatiquement de l'oxygène et du bois. Ils oublient que les scientifiques ont fait des découvertes incroyables. Les arbres ont une mémoire. Ils peuvent anticiper. Ils peuvent assimiler les informations. Ils peuvent envoyer des avertissements aux autres arbres. Nous savons depuis un certain temps qu'une forêt est un réseau complexe qui partage ses données, un milieu où les arbres veillent les uns sur les autres. Nous savons aujourd'hui que les arbres communiquent entre eux, aussi bien par leurs racines que par leur feuillage. Les arbres peuvent nous aider. Ils peuvent modifier notre climat, nos écosystèmes, mais aussi nous montrer comment affronter l'avenir. Nous devons apprendre d'eux. Nous devons les protéger parce qu'ils nous protègent. Et dans ce monde nouveau, si rapide, où tout a lieu instantanément, nous n'avons plus l'habitude d'attendre. Nous avons oublié l'art de la patience. Chez l'arbre, tout est lent. La façon dont il pousse, dont il se développe. Personne ne peut réellement comprendre cette lenteur et l'âge vénérable que les arbres sont capables d'atteindre. Certains arbres ont des milliers d'années. En fait, les arbres constituent l'antithèse absolue de cette folle époque de vitesse qui est la nôtre.
Nous avons oublié l'art de la patience, c'est ce que dit Paul en parlant des arbres. Alors, quel est votre lien avec les arbres, Tatiana Dronet ? Vous êtes comme Paul, vous aussi ? Vous collez votre corps, vous entourez les arbres.
Ce qui est très intéressant, c'est que pendant très longtemps, j'ai toujours aimé les arbres. Je les ai toujours trouvés beaux, mais je n'avais pas une vraie histoire avec un arbre. Et il y a une dizaine d'années, il y a un arbre qui est rentré dans ma vie, un tilleul. D'ailleurs, exactement le tilleul du livre. Un tilleul de 300 ans. Magnifique, majestueux. J'ai vu cet arbre pour la première fois, j'ai eu un choc. Je ne savais pas qu'on pouvait ressentir un tel bonheur à être tout simplement sous un arbre, à le toucher, comme vous dites, à l'enlacer, à le regarder, à regarder les saisons à travers cet arbre, le regarder clore au printemps. Le tilleul, comme vous le savez certainement, a des fleurs qui sentent une odeur exquise au printemps. L'été, les abeilles viennent bourdonner. Ensuite, tout l'été, c'est un triomphe de la nature. Ensuite, il perd ses feuilles. Ensuite, l'hiver, il reste à cet immense être, on va dire, sans feuilles et impressionnant. Et je me suis rendu compte très, très vite que j'avais envie de parler d'arbres. Ce qui est intéressant, c'est que quand j'ai conçu le personnage de Paul, il y a eu ce livre que vous avez certainement lu, qui s'appelle « La vie secrète des arbres » par Peter Wallenben, qui a eu un succès mais mondial, et qui justement dit ce que dit Paul en résumé, c'est que nous ne pouvons plus continuer à passer à côté des arbres, nous devons les protéger parce qu'ils nous protègent. Et donc très vite, j'ai compris que la vraie sentinelle de ce livre, c'est un tilleul pour plein de raisons qu'on ne va pas dire, parce qu'on va révéler le cœur du livre. Mais cet arbre majestueux qui veille sur nous, bah moi, il est vraiment dans ma vie. Je ne vous dirai pas où il est, parce que je n'ai pas envie qu'on vienne l'embrasser, parce que c'est mon arbre. Je suis très possessive avec cet arbre.
J'entends bien.
Mais il existe, il est là. Et d'ailleurs, je le retrouve bientôt, parce qu'il n'est pas à Paris.
Est-ce que, comme certains activistes mentionnés dans le roman, est-ce que vous iriez jusqu'à vous enchaîner à votre tilleul si on menaçait de le couper ou de l'abattre ?
Ah oui, bien sûr.
Vous êtes sérieuse là ?
Oui, je suis très sérieuse. Je suis très attachée à cet arbre. Alors, on n'aurait aucune raison de l'abattre parce qu'il n'est pas dans un endroit où on va construire une autoroute. Mais j'ai déjà vu, vous savez, je suis effectivement moitié anglaise, comme je vous l'ai dit, et j'ai déjà vu mes compatriotes anglais s'enchaîner à des arbres, récemment à Londres, pour empêcher la construction d'une grande avenue. Il y a des très vieux marronniers à Londres qui sont magnifiques, qui sont très âgés, et il y avait plein de gens qui sont allés récemment s'enchaîner, et ça a marché.
Et des marronniers en bonne santé, qui n'ont pas de raison d'être abattus.
Qui devait être une vingtaine qui devait être abattus pour agrandir cette avenue, figurez-vous.
Est-ce qu'il y a aussi un éloge de la lenteur aussi à travers cet éloge des arbres ? On a bien compris notre Linden, c'est un personnage un peu comme son ami Sacha. Ils vivent vite, ils vivent dans un monde connecté, ils sont un peu trop dans la technologie, un peu trop dans la modernité. Est-ce que c'est aussi un appel de la part de l'auteur ? Est-ce que c'est un appel à nous ressourcer peut-être avec le naturel, la nature, la sève des arbres proche de nous ?
C'est vrai que moi j'ai tendance à vivre aussi dans ce monde très connecté, surtout en période de promotion de livres. Nous sommes à la demande, voilà, nous faisons des interviews, nous voyageons, nous n'arrêtons pas, nous ne prenons pas le temps vraiment de respirer, d'appuyer sur pause. Et c'est vrai que Paul vit dans un autre monde. Et d'ailleurs, à un moment du livre, Linden va devoir rejoindre ce monde de Paul pour des raisons que le lecteur va découvrir. Et tout d'un coup, il voit la beauté du monde de son père, qu'il avait oublié, surtout dans ce Paris englouti, poisseux, puant. Il voit la beauté de ce monde-là, il voit la beauté de la nature. Et je crois que nous devons tous, à un moment ou à un autre, écouter cet appel-là et le chérir.
En tout cas, Paul Malgard, donc cet homme de 70 ans, le père de Linden, a toujours vécu, vous l'écrivez d'ailleurs, il a toujours vécu dans un autre monde, un monde qui était d'ailleurs interdit à Linden. Alors Linden, il est dans son monde de la photographie, il photographie ou des mannequins ou parfois des hommes politiques, enfin il est appelé sur des scènes bien spécifiques. Et Paul, c'est un homme quand même mystérieux qui vit dans son très beau domaine donc de Vénozan, nous sommes dans la Drôme, on est très loin de la vie urbaine, trépidante, mouvementée, bruyante et polluée. Ces deux êtres qui incarnent aussi peut-être deux générations très différentes.
Oui.
70 ans d'un côté, 37 de l'autre.
Je pense qu'ils ont grandi et vécu dans des mondes différents, même si Lyndon est né dans la Drôme et qu'il a grandi dans ce monde de la nature. Mais ce qui est intéressant, c'est que son art photographique le rapproche de son père, puisqu'il va photographier son père sur son lit d'hôpital, il va photographier ses mains. Et puis aussi, c'est intéressant de remarquer que pour ce week-end familial, Lyndon n'a pas apporté avec lui ses appareils très sophistiqués, ses appareils, on va dire, numériques. Il a pris son vieux Leica, qui fait des photos argentiques. J'ai une fille photographe qui m'a donc beaucoup inspirée pour ce personnage de Lyndon. Et cet appareil lui est particulièrement cher parce qu'il a pris avec ce Leica une photo de son père au moment de la tempête de 99 à Versailles, où des milliers d'arbres ont été détruits, ce qui a été donc un spectacle absolument épouvantable pour Paul. Et Lyndon a immortalisé ce moment où son père est dans ses carcasses, toutes ses sentinelles tombées à terre, comme je l'ai décrit. Et cette photo, c'est cette photo-là de son père qui pleure dans les carcasses des arbres à Versailles qui va le rendre célèbre.
Vous écrivez, hein, c'est à travers le viseur qu'il avait remarqué que Paul pleurait sans bruit, les traits chiffonnés par la douleur. Il avait rangé l'appareil et s'était assis à côté de son père, l'entourant fermement de son bras, sentant les énormes sanglots qui lui secouaient le dos. Alors c'est vrai que là, le spectacle du parc, du château de Versailles, c'est parfois trois siècles d'histoire d'arbres qui ont été détruits, balayés par une tempête qui a duré plus de 3 heures. Et Lyndon et son père sont venus faire le constat terrible de cette destruction d'arbres qui avait marqué aussi un petit peu l'histoire du château et peut-être du peuple de France.
Moi, je me souviens très bien de cette tempête puisque j'étais à Paris quand elle a eu lieu. Et même dans Paris, c'était dantesque. J'ai jamais vu ça de ma vie de parisienne. Donc là encore, on revient à la nature, la puissance de la nature. Il y avait des troncs d'arbres partout, il y avait des toitures éventrées. Il y a eu des voitures qui ont été retournées. Je n'avais jamais vu, et puis surtout le bruit de cette tempête. Je n'oublierai jamais. J'espère ne pas revivre ça.
Puisqu'il est le chanteur préféré du père du héros de votre Sentinelle de la pluie, Tatiana de René, j'ai pensé qu'il serait bienvenu de l'écouter ce soir dans notre wagon-livre. C'est David Bowie, Ashes to Ashes. Alors Tatiana de René, si vous le voulez bien, on revient auprès de nos auditrices et auditeurs dans une poignée de minutes, juste après cette virgule musicale. Très bonne soirée sur Radio. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h. Yeah.
again. I'm stuck with a valuable friend. I'm happy, hope you're happy too. One flash of light, but no smoking pistol.
Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
Juste avant de réentendre David Bowie à l'instant sur Radion, nous parlions avec notre invité Tatiana de René de la nature capable parfois de se mettre en colère ou de se déchaîner puissamment, et notamment de la terrible tempête qui frappa notre pays il y a presque 20 ans désormais. C'était en décembre 99 et on se rappelle effectivement aux journaux télévisés des parcelles entières d'arbres totalement abattues. Oui. C'était effectivement un choc terrible. Bon, il y avait eu aussi beaucoup de victimes, beaucoup de dégâts. Il n'y a pas que les arbres qui avaient été détruits.
Non, il n'y a pas que les arbres.
Ça avait été une véritable catastrophe.
Ça avait été une catastrophe, hein. Puisque cette tempête était partie, est arrivée en Bretagne, était arrivée jusqu'en Alsace. Ça a été une tragédie.
Parlons un petit peu de la crue. Alors, vous avez fait quelques recherches. Il y a même une petite bibliographie à la fin de votre roman, Tatiana de René. Il faut dire aussi que ce sont plutôt des livres en anglais, semble-t-il. Peut-être pas facile. Ils sont traduits en français, tout de même.
Il y en a un quand même qui est
La vie secrète des arbres.
Qui est paru Coultil, que je vous recommande chaudement, qui est le plus récent. Les autres ne sont pas encore traduits, donc j'étais obligée de les citer tels quels. Mais paru Coultil, qui a été publié chez Fayard en 2012, est le livre qui m'a peut-être le plus aidé sur que donnerait la crue aujourd'hui à Paris.
Vous faites un peu dans le catastrophisme, là.
On appelle ça une dystopie.
En tout cas, en lisant le roman, on a ce pari, cette scène. On se sent aussi totalement englouti en tant que lecteur. Englouti à la fois par le drame familial et par la situation à Paris qui est angoissante et très inquiétante.
Alors, je voudrais quand même dire à mes lecteurs qui m'écoutent et qui sont peut-être effrayés par vos propos qu'il y a quand même une lumière à la fin du livre. J'ai écrit des livres bien plus noirs, bien plus sombres, bien plus inquiétants, comme La mémoire des murs, par exemple, et même Elle s'appelait Sarah, qui est quand même un roman dur et noir. Il y a une lumière à la fin de celui-là. Je ne vous dirai pas laquelle, mais il y en a une. Et ce n'était pas possible pour moi de finir ce roman sur une note tragique, catastrophique ou dantesque. Il fallait que je termine dans une douceur et dans une lumière. Donc mon lecteur trouvera ça à la fin de son chemin.
Alors, Tatiana de René, vous mentionnez la crue qui était la crue la plus meurtrière de Paris. Alors, il faut aller, c'est seconde moitié du XVIIe siècle,
oui.
Hein, c'est en 1658,
oui.
Où là, la Seine est montée à un niveau extrêmement haut. Alors là, c'était catastrophique parce qu'il y a des maisons qui ont été carrément emportées.
Notamment le fameux pont Marie qui ne ressemble absolument pas à ce qu'il est aujourd'hui. il y avait des maisons, c'était au Moyen-Âge, donc il y avait des maisons qui étaient construites sur ce pont, c'est un très vieux pont de Paris, et il a été entièrement emporté par une énorme vague de boue. Donc là, vous voyez, on est vraiment dans le catastrophisme. Mais je n'ai pas mis ça en scène, moi.
Et puis, petit clin d'œil aussi, si vous vous rappelez la devise de la ville, la devise latine de la ville de Paris.
Bien sûr, que je cite.
Fluctuat nec mergitur.
Oui, absolument.
Et puis alors, ce qui est intéressant, c'est que vous parlez des quatre immenses lacs artificiels qui ont été construits en amont de Paris entre 1949 et 1990. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ces quatre lacs artificiels ?
Je précise que je ne suis pas une fluviologue. C'est ce mot que j'aime beaucoup d'ailleurs, qui veut dire un spécialiste des fleuves. Mais j'en ai rencontré pour écrire ce livre. D'ailleurs, j'ai même fait quelques émissions de radio avec eux. Et c'est des gens que je suis capable d'écouter pendant des heures, tellement ils sont fascinants et passionnants. Donc en fait, Paris, quand on a compris le danger que représentait la Seine pour Paris, ces quatre lacs ont été construits en amont de Paris. C'est des lacs de retention, des espèces de barrages, où en fait, dès qu'il pleut trop, parce que c'est l'ennemi la pluie, vous avez bien compris, l'ennemi c'est la pluie. Trop de pluie. Une pluie qui dure pendant un mois, c'est très mauvais signe. Donc ces lacs sont capables de retenir des sommes d'eau considérables, mais le problème c'est que ça peut jouer seulement sur une cinquantaine de centimètres, pas plus, et que si ces quatre lacs sont complètement pleins à cause d'une pluie qui ne cesse pas, des nappes phréatiques qui sont très pleines, n'oubliez pas aussi que depuis 1910, nous avons beaucoup abattu d'arbres, que nos sols sont beaucoup moins poreux, que Paris a été bétonné de partout. Donc l'eau, quand elle tombe, elle n'est pas du tout absorbée par les sols. Qu'est-ce qui se passe ? Elle va directement dans la Seine. Donc, même si ces lacs existent, ils ne peuvent pas garantir une sauvegarde totale de Paris. Et d'ailleurs, Emma Aziza, pour nommer une des fluviologues avec qui j'ai eu affaire et qui m'a beaucoup aidée pour écrire ce livre et surtout pour répondre à beaucoup de mes questions, m'a quand même assurée qu'un jour, nous allons connaître à Paris une grande crue comme celle de 1910.
Donc, espérons que ce sera le plus tard possible, mais ce sera sans doute terrible.
Ça sera terrible, et d'ailleurs, elle nous a dit que, et je la crois, que Paris est assez mal préparé en fait à ça. C'est ça le problème dans l'histoire, c'est que les Parisiens sont mal préparés. Et d'ailleurs, vous avez dû voir à la télévision les images de toutes ces personnes qui ont été inondées en aval de Paris vers la Normandie, qui ont eu des inondations épouvantables, et ça fait quand même deux fois en moins de trois ans, ce qui est quand même très grave.
Il faut s'arrêter, alors, bien sûr, sur Paul Malga, donc le père de Linden, cet homme de 70 ans qui va être hospitalisé au cours du roman et qui, effectivement, il y a un secret. C'est là qu'on se dit que dans les familles,
mais
il y a des tas
trop
de secrets. J'en dis pas plus.
Stop.
J'avais pas trop dit.
Oui, non. Mais
stop, je n'en dis pas plus.
Je dirais que le secret de Paul est peut-être le plus grave de tous les secrets des autres. Parce que c'est celui qui a été gardé le plus longtemps et qui a eu le plus de répercussions.
Alors, les femmes, elles sont pas très épaisses dans ce roman.
Mais n'importe quoi !
La mère...
Vous l'avez mal lu.
La mère...
Pas très épaisses,
oui.
Elles ont des sacrés caractères. Excusez-moi.
Tilia, elle est un peu faible par rapport à son mari. Ah, bon, elle est mal mariée.
Vous avez mal lu le livre, hein, pardon. Elle est grande gueule. Elle a toujours pris la défense de son frère. Elle l'a toujours soutenu. Elle est quelqu'un qui a le verbe très haut. Le problème, c'est qu'elle est amoureuse d'un monsieur qui aime bien boire. Et ça, c'est un grand tabou. Ces femmes... qui ont dans leur vie un monsieur alcoolique.
Un ivrogne, oui.
Un ivrogne,
oui,
voilà.
Dire,
et
oui.
Donc, moi, j'ai voulu aussi mettre J'ai voulu raconter l'histoire d'une femme qui justement, met son poing sur la table, qui jure, qui n'a pas un langage très élégant, qui est la première, par exemple, quand son père fait l'AVC, je ne vais pas utiliser le mot qu'elle utilise, mais elle dit « Est-ce qu'il y a une ambulance ? Il faut appeler une ambulance !» Et en même temps, voilà, dans son couple...
Elle est un peu faible quand même.
Bien sûr, mais
elle était assez inexistante.
Mais je suis pas
ou écrasée
du
alors
tout
par son
d'accord
mari.
Avec vous que c'est des personnages pas épais. Je pense que vous les avez mal lus et que vous devriez relire le livre. Et quant à Lorraine, la maman, je pense que son drame à elle, c'est qu'elle a passé sa vie avec quelqu'un qui regarde les arbres.
Oui. Et trop connu, une célébrité qui a écrasé un peu aussi cette femme.
Et qu'elle est une belle plante, entre guillemets. Et que c'est pas facile pour elle. Elle a quitté son pays. Elle n'a jamais maîtrisé l'anglais, le français, pardon. Oui. Elle n'a jamais perdu son accent. Elle est dans un endroit quand même qui est, on va dire, un peu isolé. Elle ne s'est peut-être pas fait beaucoup d'amis. Sa sœur est décédée dans des circonstances très difficiles. Sa fille est partie, elle aussi, très jeune. Donc elle s'est retrouvée toute seule dans cette grande maison avec pour compagnie un mari qui passe sa vie à écouter David Bowie et à regarder des arbres. Donc je suis pas d'accord avec vous. Je trouve qu'au contraire elles ont beaucoup de personnalité et puis Tilia bien sûr a aussi un terrible traumatisme dont on peut parler en deux mots puisqu'elle a vécu un accident de voiture épouvantable dans sa jeunesse qui a laissé des séquelles d'ailleurs physiques aussi puisqu'elle boite et qu'elle n'a jamais pu non plus parler de cet accident.
Et puis il y a la nièce de Lindel, la petite Mistral, oui. Alors qui elle est aussi une jeune femme très sympathique.
Je dis pas que... on va dire qu'elle est très 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 jeune, mais très mûre pour son âge, puisque c'est elle qui s'occupe un peu de sa mère. Elle a très bien compris le problème avec son beau-père. Et d'ailleurs, elle n'était pas là au début du livre. Elle débarque quand elle apprend que son grand-père est à l'hôpital. Elle débarque. Elle se dit elle ne peut pas rester en dehors de ce qui se passe dans cette famille. Elle est très proche de son oncle Lyndon qu'elle aime profondément. Et donc elle débarque et elle permet aussi un peu de faire le lien entre le frère et la sœur où c'est un peu tendu. Parce que vous vous souvenez que Tilia et Lyndon ne sont pas d'accord avec les traitements médicaux. Tilia se méfie des médecins. Elle est très désagréable avec les médecins, elle ne leur fait pas confiance, donc c'est vraiment quelqu'un qui justement n'y met pas beaucoup du sien. Et donc Mistral va être un peu le liant entre les deux, mais il y aura quand même une grosse engueulade. Mais après, ils arrivent à se dire qu'ils s'aiment.
Dernière pause musicale pour ponctuer notre entretien avec Tatiana de Ronay qui signe Sentinelle de la pluie, son nouveau roman disponible en librairie aux éditions Héloïse d'Ormesson, roman dans lequel elle déploie une tension psychologique magnifiée par un cadre apocalyptique renversant. C'est en tout cas votre émission littéraire Wagon Livre. On se retrouve dans une poignée de minutes sur Radion et nous sommes ensemble pour encore quelques minutes jusqu'à 22h.
Final, t'as semé sans sonner des points d'interrogation. Je passe mon temps à les escalader, toutes ces montagnes de questions. Toi, ma beauté, mon addiction, je rejoue notre partition. Je coupe les refrains. Oh, tu dis que je suis coupable, je mets mes fausses notes sur la table. Si tu reviens, oublie au moins les mots qui nous freinent. Faisons le vide avant que la coupe soit pleine. Reprends la main, je veux dire la mienne. Faisons le plein pour fuir loin de la peine. Si ton cœur détale, rupture brutale, moi l'animal je retiens ma respiration. Je compte à rebours, je gagne. État d'amour. Dans mes états, tous mes états d'amour. Dans mes états,
je me brûle de tant de questions. Je te promets que si tu retrouves la flamme, j'éteins tes hésitations. Je me fais des films en noir et blanc, j'aurai l'Oscar de l'amant, de l'âme en peine. Je préfère largement l'histoire où tu m'embrasses au hasard. Je rejoue la scène, oublie au moins les mots qui nous freinent. Faisons le vide avant que la coupe soit pleine. Reprends la main, je veux dire la mienne. Faisons le plein pour fuir.
Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
Retour aux côtés de notre invitée Tatiana de René, qui est sur le devant de la scène éditoriale en ce moment avec un nouveau roman intitulé Sentinelle de la pluie aux éditions Héloïse d'Ormesson.
Alors il y a un épisode très amusant, c'est lorsque débarque le fameux mari ivrogne de Tilia, lorsque on dit Colline ou Colin ?
On dit Colline.
Colline. Alors Colline, il est expert en art, hein. il a belle, ses belles situations, mais alors le problème c'est que dès qu'il commence à boire, il dérape très vite. Alors il y a une scène assez amusante où justement Colline, qui n'est pas homophobe, mais disons qu'il dérape un peu
même. Il faut dire les mots.
Bon, alors, juste ce qu'il dit. Hein,
il est quand même pas très, on va dire, tolérant.
Alors, Lyndon regarde son beau-frère, que le fou rire plie en deux, les joues cramoisies. Colin essuie de fausses larmes au coin de ses yeux. Que les choses soient bien claires, il n'a rien contre Lyndon, ni contre les tapettes en général, mais il est incapable de comprendre comment un homme peut ne pas être attiré par une femme. Sérieusement, ça le dépasse. Comment se fait-il qu'une paire de nichons ne lui fasse aucun effet ? Et un peu plus loin... Terrible, il aurait préféré avoir un fils en fauteuil roulant plutôt qu'un fils homo. Allons, il plaisante, c'était une blague. Et donc, il y a un moment, là, Lyndon, quand même, lui dit « Tu vas la fermer ta gueule
?» Là, c'est... Il sort de ses gonds. Et d'ailleurs, son beau-frère est très étonné parce qu'il n'a jamais vu Lyndon sortir de ses gonds. Et d'ailleurs, Lyndon est quelqu'un d'assez poli, de bien élevé. Et là, pendant tout le roman... Il y a un moment aussi à l'hôpital, rappelez-vous, on lui dit « Comment, vous n'avez pas le papier, vous ne pouvez pas rentrer ?» C'est le jour de l'évacuation de l'hôpital. « Ah, vous n'avez pas ce papier alors qu'on ne lui a jamais donné ?» Et là aussi, il va perdre son calme. Donc oui, ce beau-frère, il m'a beaucoup servi en fait, parce que j'ai remarqué que c'est vrai que les personnages alcooliques sont assez tentants pour un écrivain. Parce que d'abord, ils sont assez drôles dans un premier abord. Même s'ils disent des choses monstrueuses, on va dire. On en connaît tous dans notre entourage, dans notre famille. On a toujours le souvenir de quelqu'un qui a un petit peu trop bu à une soirée et qui a sorti la phrase qui tue. Et voilà. Et lui, Colin, il y va vraiment. Et à un moment, d'ailleurs, pas dans cette scène-là, mais il y a une autre scène où Lyndon le fout carrément dehors dans la pluie.
Oui.
Parce qu'il va vraiment trop loin.
Oui, où Colin glisse par terre.
Oui.
Et je crois que...
Et il y a un fou rire incroyable entre le frère et la sœur. Je me suis dit, quand même, il faut qu'il se marre un petit peu dans ce livre. Il faut qu'il y ait des choses drôles. aussi.
Concernant quand même la relation, le couple entre Tilia et, le, et l'alcoolique, c'est Colline qui dit quand même que Tilia a la libido d'une marmotte en hibernation.
Mais il est cruel, hein, il dit des choses très cruelles. Et puis là, rappelez-vous, c'est au moment où ils commencent à boire. Ils sont au bar tous les deux, au Rosebud Bar à Paris, rue de l'Ambre. Et Lyndon prend quelque chose sans alcool et Colin, il attaque déjà. Il a déjà pris deux cocktails et là, il est en train de boire un Chablis. Et il y va. Et donc, tout sort.
Alors, effectivement, il est question un petit peu de Bourgogne. C'est dans... Elle s'appelait Sarah. Il est question un petit peu de la Bourgogne. Il n'y a pas la famille de l'américaine qui a épousé donc ce Français, qui a une belle famille en Bourgogne.
Alors est-ce... Oui, absolument. C'est absolument, mais il y a toujours un petit clin d'œil à la Bourgogne dans mes livres.
Vous la connaissez, la Bourgogne ?
Bien sûr, très bien.
Très bien ?
Oui, oui, très bien. J'ai ma famille qui a longtemps vécu pas très loin d'ici, on va dire plutôt vers Sens. Et puis, la famille de René est originaire de la Bourgogne.
D'accord. Et donc, le tilleul n'est pas dans Lyon ?
Non.
Mais il est à Paris ?
Non, je ne vous dirai pas où il est.
C'est un secret absolu.
Oui. Il va falloir me faire boire pour que je vous le dise. Je rigole.
Alors, si je résume Sentinelle de la pluie, je dirais qu'on a quand même une situation dramatique autour de la fin d'un père. C'est là où peut-être la disparition du père va peut-être libérer un petit peu la parole dans cette famille. On même va si dire... elle n'est pas complètement, elle on est va pas dire... complètement emprisonnée.
On va dire... Moi, je pense que c'est la mère qui, depuis longtemps...
Alors, la mère aussi, elle est friponne. Hein.
A compris que... Il y avait un manque de communication dans cette famille, donc je pense qu'elle a organisé ce fameux dîner dans l'espoir que sa famille puisse se parler enfin. Mais je pense qu'elle n'a pas du tout anticipé, ni la crue, ni la WC de son mari, ni tout ce qui allait se passer après.
En tout cas, il faut encourager donc nos auditrices et auditeurs à se plonger dans ce Sentinelle de la pluie, qui est donc votre dernier roman. Et puis, on peut réécouter David Bowie et lire aussi un roman de Jean Giono, dont oui. Il est question.
L'homme qui plantait les arbres, oui. Qui est un remarquable... C'est tout court. Hein. Vous le lisez en une demi-heure. D'ailleurs, Mistral et Lyndon vont le lire à leur père et grand-père à son chevet. C'était le livre préféré de Paul. Et c'est l'histoire d'un qui a été d'ailleurs totalement inventée par Giono, d'ailleurs. Hein. Mais on y croit. C'est l'histoire d'un berger mystérieux qui va entièrement replanter, redonner une raison de vivre à une vallée complètement desséchée, quelque part en Provence, pendant des années. Il va aller planter avec son bâton. Et 50 ans plus tard, il y a une magnifique forêt qui naît là, des villages qui viennent s'installer, l'eau qui revient. Donc, il a sauvé la région et c'est un livre magnifique.
Merci Tatiana Doronet pour toutes ces précisions. Sentinelle de la pluie aux éditions Héloïse d'Ormesson. Pour ma part, je vous retrouve avec plaisir mercredi prochain, 4 avril, toujours dès 21h sur Radion, avec un nouvel invité. C'est un bourguignon, un morvandiau d'adoption qui sera devant notre micro. C'est Didier Cornaille, ancien journaliste agricole notamment, qui viendra nous présenter son dernier roman, Thibaut des Choucas, disponible en librairie aux éditions des Presses de la Cité. Didier Cornaille qui sera d'ailleurs présent les 7 et 8 avril prochains à la 21e fête du livre d'Autun en Saône-et-Loire. C'est un grand moment. Je dirais qu'il y a deux grands salons en Bourgogne. L'un au printemps, la fête du livre d'Autun organisée par les bénévoles de l'association Lire en Pays Autunois, et Livre en vigne lors du dernier week-end de septembre. En tout cas, ces deux grandes fêtes sont complémentaires et nous aurons d'ailleurs bien sûr l'occasion pour Radion de vous proposer un compte-rendu du Salon du Livre d'Autun. Si vous voulez connaître la liste des invités, plus d'une centaine d'écrivains présents à Autun, à la salle de l'Hexagone, eh bien vous vous rendez sur le site internet de Lire en Pays Autunois et vous y trouverez toutes les informations utiles. En tout cas, la semaine prochaine, donc Didier Cornaille devant notre micro. Merci à vous d'avoir été avec nous ce soir. Je vous rappelle que si vous avez manqué cette émission, vous pouvez la retrouver très rapidement
sur le site d'archives de Wagon Livre, www.yannickpetit.fr. Merci de votre écoute et de votre fidélité. Très bonne fin de soirée à toutes et à tous. Au revoir et à la semaine prochaine.